J'ai assisté à la révolution et au début de la guerre Iran-Irak, jusqu'à ce que les relations entre la France et l'Iran soient à ce point tendues qu'on nous évacue et que l'Institut français d'Iranologie soit mis en sommeil. Gilbert de Morgan parlait d'une voix un peu gênée. La fin d'après-midi était étouffante. Le sol était une dalle de four qui renvoyait la chaleur accumulée pendant la journée. La pollution glissait son voile rosâtre sur les montagnes encore enflammées par les derniers rayons du soleil. Même la treille dense au-dessus de nos têtes paraissait accuser la sécheresse de l'été. La gouvernante, Nassim Khanum, nous avait servi des rafraîchissements, une délicieuse eau de bergamote glacée, à laquelle Morgan rajoutait de longues rasades de vodka arménienne. Le niveau d'alcool dans le joli carafon baissait régulièrement, et Sarah, qui avait déjà été témoin des penchants atrabilaires de son maître, l'observait d'un air légèrement inquiet, me semblait-il. Mais peut-être s'agissait-il seulement d'une attention soutenue. La chevelure de Sarah luisait dans le soir. Nassim Khanum nous tournait autour pour apporter toutes sortes de douceurs, pâtisseries ou candies safranées. Et au milieu des roses et des pétunias, on oubliait le bruit de la rue, les klaxons, et même les effluves de gasoil des autobus qui passaient en trombe juste de l'autre côté du mur du jardin, en faisant légèrement vibrer le sol et teinter les glaçons dans les verres. Gilbert de Morgan poursuivait son récit. Sans prêter attention ni au mouvement de Nassim Khanum, ni au vacarme de l'avenue Valias. Des marques de sueur grandissaient autour de ses aisselles et sur sa poitrine. Il faut que je vous raconte l'histoire de Frédéric Lyautey, poursuivait-il. Un jeune homme originaire de Lyon, chercheur débutant lui aussi, spécialiste de poésie persane classique, il fréquentait l'université de Téhéran au moment des premières manifestations contre le Shah. Malgré nos mises en garde, il était de tous les cortèges. Il se passionnait pour la politique, pour les ouvrages d'Ali Shariati, pour les clercs en exil, pour les activistes de tout poil. À l'automne 1977, au cours des manifestations qui suivirent la mort de Shariati à Londres, on était certain à l'époque qu'il avait été assassiné. Lyautey a été arrêté une première fois par la SAVAK, la police secrète, puis remis en liberté presque immédiatement lorsqu'on s'aperçut qu'il était français. Remis en liberté après, tout de même, un léger passage à tabac, comme il disait, qui nous effraya tous. On l'a vu réapparaître à l'Institut couvert de bleu, les yeux gonflés, mais surtout, plus terrifiante encore, deux ongles en moins à la main droite. Il ne paraissait pas affecté outre mesure par cette épreuve. Il en riait presque. Et ce courage apparent, au lieu de nous rassurer, nous inquiétait. Même les plus forts auraient été ébranlés par la violence et la torture. Mais Lyautey en tirait une énergie bravache. Un sentiment de supériorité si bizarre, il nous faisait soupçonner que sa raison, au moins autant que son corps, avait été touchée par les tortionnaires. Il était scandalisé par la réaction de l'ambassade de France, qui, racontait-il, lui avait signifié que, somme toute, c'était bien fait pour lui, qu'il n'avait pas à se mêler de ces manifestations qui ne le regardaient pas, et qu'il se le tienne pour dit. Lyautey avait assiégé le bureau de l'ambassadeur Raoul Delay pendant des jours, avec son bras encore en écharpe et sa main bandée, pour lui expliquer sa façon de penser, jusqu'à ce qu'il réussisse à l'apostropher à l'occasion d'une réception. Nous étions tous présents, archéologues, chercheurs, diplomates, et nous avons vu Lyautey, les pansements crasseux, le cheveu long et gras, perdu dans un jean trop grand, prendre à partie le si civil Delay qui ignorait absolument qui il était. Il faut dire à la décharge de l'ambassadeur que contrairement à aujourd'hui, les chercheurs et les étudiants français étaient nombreux à Téhéran. Je me souviens parfaitement de Lyautey, rouge et postillonnant, en train de cracher sa